On va passer aux sorties de la semaine. Laurent, on va commencer par Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Deux étudiants, Gatsby et Ashley, envisagent de passer un week-end à New York. Elle, elle doit intervenir pour le journal de sa fac. Elle doit interviewer un célèbre cinéaste. Bientôt séparés, chacun enchaînera les rencontres fortuites et les situations insolites. Woody Allen renoue avec sa fibre Manhattan Annie Hall. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le jeune Chalamet, c'est lui hyper nostalgique. C'est lui, Woody Allen, en fait. Hyper nostalgique d'un New York qui n'existe plus, courant derrière un passé révolu, pendant que son interprète la cherche, elle. Elle se perd dans le milieu du cinéma factice, draguée tour à tour par un réalisateur, un producteur ou un acteur en vogue. On ne retrouve pas vraiment le charme, je trouve, des comédies susnommées, avec un léger problème de rythme, une histoire parallèle, notamment avec le frère, est totalement superflu. Reste quand même une jolie comédie automnale, dominée et sauvée par ces deux jeunes et sacrés tempéraments d'actrices, Elle Fanning et Selena Gomez. Mais je sais que vous êtes beaucoup plus enthousiaste.
Oui, oui, je suis plus enthousiaste, oui. Moi, je trouve que Woody is back, Woody Allen est de retour et en grande forme, et avec lui, New York, vous le disiez, sa ville fétiche, plus un casting parfait, hein, c'est elle et lui, elle c'est une fausse nunuche, lui c'est un vrai névrosé. Alors face à elle, il y a des hommes qui sont plus pitoyables les uns que les autres, ou à peu près, et face à lui-même, mais il y a surtout lui, quoi, voilà. C'est sa découverte de ce qu'il est vraiment qui fait tout le poids et le charme du film. À 83 ans quand même, Woody écrit des dialogues avec une verve incroyable, notamment quelques piques sur les journalistes parfaitement bien sentis. Bref, c'est du champagne, alors champagne.
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, 1770. Marianne, c'est Noémie Merlant, est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent, c'est Adèle Haenel. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret, introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde. Vue à Cannes dans la fièvre d'une compétition de haut niveau et revue cette semaine pour vérifier à froid si mon enthousiasme cannois n'était pas surdimensionné. Non, intacte cette sensation avec ce film d'avoir assisté à la naissance d'un autre regard de cinéma sur les femmes et sur l'amour, filmé par une femme, un regard complètement égalitaire, mais aussi sensuel, social, politique, moderne, dans une histoire pourtant en costume, comme une réponse un peu à tous les regards d'hommes cinéastes jusqu'à présent. On l'appellera ça comme on voudra, ce film féministe, oui, mais aussi rêve cinématographique d'une femme cinéaste qui n'a justement jamais vu ça au cinéma, et nous non plus. Une histoire de regard, ce film, celui d'une peintre sur son modèle, d'une femme sur une autre femme, d'une réalisatrice sur ses actrices, moteur de leurs désirs et victime de leurs destinées empêchées, des regards qui n'ont pas besoin de dialogue pour exprimer le feu sous la glace, des dialogues très pertinents, comme celui-ci dit par Adèle Haenel, c'est un sentiment doux à vivre, l'égalité, oui, l'égalité dans une relation amoureuse, amicale aussi, comme ces belles scènes de sororité, nouveau mot, mais jamais galvaudé dans ce film, fort beau, cruel et doux aussi, et qui redonne du présent à ces femmes du passé qui n'ont jamais été racontées.
Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Bon, allez, juste une petite réserve quand même sur quelques apparitions fantomatiques
dont
j'ai pas compris l'utilité. Alors, on pourrait s'en passer, mais comme d'autres scènes sont absolument sublimes en termes de cinéma, et avec vraiment des tableaux, tout ça picturalement tient parfaitement la route, j'ai une petite mention spéciale aussi quand même pour Noémie Merlant, celle qui fait face à Adèle Haenel, et il faut être à bon niveau pour faire face à Adèle Haenel, on le sait bien, voilà. Et cette actrice se révèle absolument dans ce film.
Nous, le peuple, de Claudine Bory et Patrice Chagnard. Entre janvier et juillet 2018, c'est très important, c'est deux mois juste avant le début des Gilets jaunes, ils ont filmé en banlieue parisienne trois groupes de citoyens, des lycéens, des mères de famille et des prisonniers de Fleury-Mérogis. C'est ce projet fou, leur faire écrire une nouvelle constitution, un immense cahier de doléances, avant l'officiel cahier de doléances. On évoque essentiellement l'égalité des chances qui est menacée. C'est un très beau projet sur le papier, très méritoire, malheureusement lettre morte à l'arrivée, et pas toujours très clair sur ses enjeux.
Oui, alors il faut dire que Claudine Boris et Pascal Chagnard ont fait deux précédents documentaires magnifiques qui sont des très beaux constats sociaux, les arrivants et les du jeu, je le rappelle. Au fond, ce qu'il y a de formidable, c'est que, effectivement, vous le disiez, le film a été terminé de tourner 4 mois, je crois, avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun? Ben, simplement, il y a une soif manifeste de reconnaissance, de considération, de respect de la parole ou des paroles du peuple. Un peu moins de mépris, un peu plus d'écoute. C'est au fond ce qui ressort essentiellement de ce documentaire et des luttes qui ont suivi.
Notamment, je pense à ce prisonnier qui est absolument passionnant et c'est des paroles effectivement très rares au cinéma. Ad Astra ou Vers les étoiles, le nouveau James Gray, son premier film dans l'espace, son space opéra dans un futur proche, l'astronaute Troy McBride, c'est Brad Pitt s'aventure jusqu'aux confins du système solaire pour résoudre un mystère qui menace la survie sur notre planète, c'est l'émission d'ondes électromagnétiques ultra puissantes, mais aussi pour partir à la recherche de son père, célèbre astronaute disparu 16 ans auparavant lors d'une mission autour de Neptune qui consistait à chercher des formes de vie intelligentes. Au premier degré, c'est un vrai film de science-fiction, plutôt réussi d'ailleurs, et notamment cette idée qu'on va sur la Lune un peu comme on prend l'avion, ou même dans la description d'attaques pirates lunaires comme une scène d'action terrestre et super bien filmée. Puis au second et principal degré, c'est l'odyssée humaine et mentale, celle d'un fils vers son père. Ça, c'est un thème central dans l'œuvre de James Gray, un fils opaque. C'est Brad Pitt, donc indifférent aux émotions, apparemment inébranlable. Une voix off, la sienne, ne cesse de s'interroger sur cette énigme jusqu'à sa rencontre. Et les dialogues père-fils un peu trop explicatifs à cause peut-être de l'interprétation d'un Tommy Lee Jones un petit peu en service minimum. Donc elle est mentale, cette odyssée. Moi, je trouve beaucoup moins émouvante sur ce même thème que son précédent film qui était The Lost City of Z.
Ah, c'est un bon volet. Après 2001 de Kubrick, on pouvait se dire que le cinéma dans l'espace du futur avait tout donné. On sait depuis Ridley Scott, Quaron, Chazelle, entre autres, qu'il n'en est rien. Alors dans l'espace, on ne vous entendra pas crier au génie. Et bien pourtant, c'est bien de cela qu'il faudrait faire et qu'il faut faire avec ce film Ad Vitam. C'est un mélange assumé de Kubrick et de Coppola, parce qu'il y a eu de l'Apocalypse Now dans cette quête éperdue d'un fantôme bien vivant. Ben, ce fantôme, c'est, vous le disiez, un père. Alors là aussi, eh bien, dans l'espace, personne ne vous entendra crier votre invraisemblable et insondable mélancolie du sentiment filial. C'est très beau.
Et on termine par El Ostro Cristobal de Armand Gatti. Un film qui est inédit depuis 1963. C'est une fiction poétique et politique dans laquelle Jean Bouise campe avec fantaisie, eh bien, le double picaresque de Fidel Castro.
Oui, parce que c'est une commande du camarade Fidel. En 1963, il a commandé ce film à Armand Gatti pour représenter Cuba au festival de Cannes. C'est étonnant. Alors, c'est un truc, mais foutraque, baroque, absolument barré. On n'y comprend pas grand chose. Il est question d'un combat dans le ciel, d'un dictateur qui veut prendre la direction du ciel. On y voit la Vierge, un déluge. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est une sorte d'objet filmique non identifiable. Ça dure près de 2 heures, c'est un feu d'artifice. Posez votre raison au vestiaire avant d'entrer dans la salle et vous serez agréablement séduit.
On a une minute pour annoncer 2 choses
c'est
encore.
Très court. Alors à Nice, vous allez depuis le 19 septembre jusqu'au 5 janvier voir l'exposition patronnée par Dominique Paigny, l'excellent cinéphile, s'appelle Cinématisse. Ça nous montre combien Matisse était un cinéphile et ô combien. Et puis à Dinard, du 25 au 29 septembre, le cinéma britannique est à l'honneur.
Les cadeaux, allons-y.
Des cadeaux, c'est vous qui donnez le premier, Christine.
À Coming Out de Denis Parot, chez KMBO, ce doc, ces adolescents qui se quand ils annoncent à leurs parents leur homosexualité, un moment de basculement intime. Denis Parot, sur les milliers de vidéos qu'il a trouvées sur le net, en a sélectionné une quinzaine, les a remontées, chapitrées. Le résultat est bouleversant. C'est pour vous, Emmanuel Marc.
Pour vous, Olivier Gourmet, les Gilets jaunes, on en parlait. François Ruffin, avec Gilles Perret, a fait un formidable documentaire dessus. Ça s'appelle « Je veux du soleil ». Pour ceux qui ont envie de connaître autre chose sur cette réalité, c'est un magnifique documentaire. Et pour vous, le Suisse, Antoine Rusbach, eh bien, un autre Suisse, un certain JLG, 2 très beaux films de lui, dont les bonus sont menés tambour battant par Alain Bergala chez Potemkin.
Jean-Luc Godard, voilà.